9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, c'est à votre santé. Ah, ça vous fait rire, hein, Pépé?
Non, mais c'est un problème, vous pouvez nous écouter, nous entendre, mais on va pouvoir se lâcher, on va pas être dérangé par toutes les questions.
Non. Qu'est-ce que vous avez touché? Vous avez touché l'interrupteur, là, tout ce matin? Vous avez fait tout disjoncter de cœur de labo?
Non, je suis très fatigué, j'arrive avec Zora.
Ah oui, j'imagine qu'elle vous a fatigué.
Elle a un petit appart super. Elle m'a reçu avec vraiment beaucoup de gentillesse, mais ça m'a épuisé.
Ah bah, c'est plus de votre âge.
Ça, comment ça, c'est plus de mon âge?
Bah non.
Je rigole. Zora, est-ce que c'est de mon âge?
Vous me fatiguez, docteur Delabo. Bon, comment allez-vous?
J'ai dit hasard, on s'est retrouvés dans le bus.
Tu es pas vrai, c'est venu incroyable.
Mais si, c'est marrant. Oh, bah oui, c'est vraiment un hasard parce que moi j'ai une station, elle en a un paquet parce qu'elle habite quand même beaucoup plus loin. Elle prend le bus et j'ai une petite main qui me touche l'épaule. Ah,
ah! Du coup, docteur, tout de suite, qui se dit tiens, quelqu'un m'a reconnu.
Alors j'ai dit, merci. J'ai dit à Zora, on va faire marcher Philippe un peu. On va lui dire que t'as un bel appart et que je suis épuisé.
Bon, je vois que vous êtes très en forme, docteur Delabo.
Je suis fatigué.
Bon, je peux. Non, vous avez l'air très très bien pour quelqu'un de fatigué.
Oui, parce que tout va bien, parce que mon fils a retrouvé une situation très bien. Il est urgentiste dans une clinique où il est très très bien payé, donc je suis ravi, parce qu'il ramait un peu. Ah, il a laissé tomber la chrono pour l'instant, mais il m'a dit, t'inquiète papa, quand tu seras mort, je prendrai ta suite. J'ai dit, je te remercie beaucoup.
Bon, au moins, il changera juste le prénom.
Oui.
Il aura le nom.
Ah, puis la technique est exactement la même. Hein,
parce oui, donc c'est pareil.
Alors, toutes ces patientes qu'il a laissées pleurent toutes, et elles sont toutes malheureuses parce que, ah, Sébastien. Alors, je lui ai dit, il me dit, non, mais là, t'es vache, là, tu m'as mis le couteau dans les plaies, parce qu'il ne l'a pas fait par plaisir, il l'a fait parce que ça lui permettait de te tirer d'affaires financièrement sans avoir à me tendre la main.
Bon, docteur Delabo, vous avez fait quelque chose de pas très radiophonique.
Oui.
Mais vous aviez la braguette ouverte.
C'est pas extraordinairement utile d'aller le dire, Philippe.
Mais c'était affreux parce que j'arrivais pas à démarrer cette émission.
J'ajouterais à cause de l'odeur, je suppose. Non, mais tu veux une baffe?
Non. Alors on essaie de relancer le standard pour que vous puissiez parler au doc tout à l'heure, en espérant que ça fonctionne. Mais sinon, vous allez entendre le docteur Delabo jusqu'à 10h. Et docteur, si vous voulez bien, on va commencer par votre semaine santé, docteur Delabo.
Oui, Philippe, j'arrive.
Alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes ennuyé, pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive, docteur Delabo? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous cherchez de l'eau? Franchement, mais c'est pas un métier facile.
Parce que je suis assoiffé, parce que j'ai très chaud, je me suis trop couvert. À Rouen, il faisait froid hier. Cette nuit, il s'est mis à faire meilleur à Paris. Et ce matin, à Paris, il fait chaud. Il fait humide et chaud.
Bah évidemment, vous avez un col roulé.
Bah, j'ai un col roulé parce qu'il faisait froid.
D'accord, donc vous mettez de l'eau dans votre café, on explique aux gens ce qui se passe. Voilà. Et on va pouvoir y aller pour la semaine santé. C'est la semaine santé 135, docteur Delabo. Et on commence avec le lundi. Mincir grâce à une méthode chrono-asiatique. Alors ça, c'est intéressant.
Oui, ça m'a... Quand je lis le mot chrono et le mot mincir associés l'un à l'autre, j'ai toujours un doute sur l'honnêteté de l'auteur en ce qui concerne cette soi-disant nouvelle découverte. Et mon doute se transforme en cette certitude quand celui-ci affirme avec un bel aplomb qu'il s'est simplement basé sur la chrononutrition. Il s'est basé, le petit chéri. Quand tu lis le bouquin qu'il a écrit, il ne s'est pas basé. Hein. Il s'est baigné dedans. En ajoutant pour faire bien et peut-être pour éviter les ennuis que je ne vais pas manquer de lui faire, du blabla sur les habitudes alimentaires de la vie en Asie du Sud-Est. Oui. Bon, après tout, ce n'est qu'un copieur de plus qui va ramener vers moi le peu de lecteurs qu'il aura quand ils comprendront qu'il s'agit plus d'un plagiat que d'autre chose. Et il n'est pas le premier, ce ne sera sans doute pas le dernier, mais après tout, peu importe que les copieurs sévissent avec plus ou moins de bonheur et en tout cas un manque total d'honnêteté, de plus en plus de gens savent, Dieu merci, ce qu'est la chrononutrition et comment son auteur leur apprend à s'en servir correctement et utilement.
Mardi, docteur, un médicament miracle contre le diabète.
Oui, alors ça, les fake news comme ça, ça donne envie de botter les fesses. Les fake news comme ça.
Les fake news.
What is a fake news?
Je vous explique, allez-y, docteur.
C'est quoi une fake news?
C'est une fausse nouvelle.
Ben voilà pourquoi tu prends l'air étonné.
Mais non, parce que, dans votre bouche, ça prend tout de suite un côté scoop.
Ben, c'est exprès. C'est voulu. C'est mon côté journalistique.
Donc, mais c'est
que
vrai
tu m'as appris, je te signale.
Allez, le médicament donc, contre le diabète.
Alors, on a trouvé une plante. On aurait trouvé une plante capable de lutter efficacement contre le diabète sans faire aucun effort, dites dans C'est merveilleux. Hein, c'est la berbérine. Malheureusement, la berbérine, c'est une plante qui pousse dans une région africaine, je crois. C'est pour ça que ça s'appelle la berbérine, c'est l'herbe des berbères. Malheureusement, les miracles n'existent pas et les vertus dont on part artistement cette plante pour essayer d'en vendre le plus possible, bien sûr, à un public malheureusement beaucoup trop crédule. Donc, ne vous laissez pas entuber par ce genre de trucs. Vous en trouverez tout le temps sur le web. Et je veille sur vous, mais je ne peux pas veiller partout. Donc, méfiez-vous de tout ce que vous lisez. Bien entendu, c'est une fois de plus de la poudre aux yeux et du charlatanisme dont on a la preuve quand on lit « Produit sponsorisé par » suivi du nom ronflant d'un laboratoire qui n'en est pas vraiment un. Vous avez compris l'astuce, je vends le plus possible de cette merde. Le jour où on s'apercevra que ça ne sert à rien, j'aurai gagné beaucoup d'argent.
Bon, en tout cas,
je parle pour le laboratoire,
l'article,
pas pour moi.
L'article que je lis dit qu'elle est très utilisée dans la pharmacopée asiatique.
Bien sûr, bien sûr.
Mercredi,
bien
sûr. Et pour finir, la première page, une graine de miracle.
Oui, une graine miracle. Oui, c'est, je sais pas, deux miracles, une graine miracle. J'ai ajouté deux, je sais pas pourquoi.
Parce qu'elle était noble.
Non, c'est mon serveur vocal qui me joue des tours tout le temps. C'est incroyable ce qu'il peut y avoir de miracle dans la presse soi-disant médicale destinée au grand public. Aujourd'hui, ce sont les graines de lin qui sont à leur tour parées de nombreuses vertus thérapeutiques. On embouche les trompettes de la renommée pour parler d'une graine connue depuis des millénaires et dont on sait qu'elle n'a pas que des avantages, mais également des inconvénients culinaires. Ça, il y a très peu de gens qui le savent. Qu'on ne peut pas me prendre du lin n'importe quoi, n'importe quelle graine, n'importe quel lin, parce qu'il y a plusieurs variétés de lin. Le petit lin, par exemple, c'est la cameline, qui contient des oméga-3, et puis il y a le lin, la variété commune, qui n'a pas du tout les mêmes qualités, ni culinaires, ni utiles en pharmacopée. Ça fait un moment que je vois des gens se gaver de graines de lin, ce qui n'a en fait pas un grand intérêt sur le plan nutritionnel, alors s'il vous plaît, on oublie. D'autant plus que quand vous mangez des graines comme ça, des graines de lin qui sont assez dures, vous risquez, si vous avez, et à passer 50 ans, on commence toujours à avoir des diverticules, si vous avez des diverticules, vous allez me coller ça dedans et vous risquez de faire des infections intestinales carabinées. Alors, évitez les graines dans leur ensemble quand vous avez un certain âge.
Mais quelles sont les bonnes graines de lin, alors celles qu'il faut utiliser pour ceux qui voudraient quand même...
Mais ils peuvent les utiliser, c'est à leur risque et péril. Ça dépend comment la graine a été traitée, ça dépend... Il vaut mieux si tu veux, que la graine soit traitée. Je ne sais plus ce qu'il y a dans le lin, mais j'ai lu ça avec curiosité et avec beaucoup d'intérêt. Certaines variétés de lin ont des éléments nocifs dans leur cuticule. La cuticule, c'est l'enveloppe de la graine.
Bien, jeudi, des conseils utiles concernant le vinaigre blanc, docteur Delabeau.
Ah, une gentille naturopathe nous explique notamment que le vinaigre blanc, ça abîme le marbre et les pierres calcaires. Bon, ben ça c'est évident. Hein. Là, franchement, j'éclate de rire. C'est devant cette évidence qu'on essaie de nous faire prendre pour une nouveauté. Ben, le vinaigre, c'est un acide. C'est de l'acide acétique, le vinaigre.
Non, mais elle n'a pas tort de le dire, puisqu'aujourd'hui, on met du vinaigre blanc partout.
Oui, mais on n'en met pas sur le... Mais c'est évident, depuis des années, si je m'amuse à prendre la bouteille de vinaigre blanc à la maison, on en a toujours 3 bouteilles d'avance. C'est l'antiseptique par excellence, et c'est surtout l'opposé de tous les produits chimiques qu'on nous colle à tort et à travers, et qui abîment nos doctes personnes autant que ça peut nettoyer. Ça nettoie d'ailleurs beaucoup moins bien que le vinaigre blanc, qui a l'avantage, lui, d'être un puissant antiseptique. C'est vraiment très bien.
Oui, mais là, on est en train de parler de ses vertus nettoyantes, en fait.
On devrait, nettoyante et antiseptique, pas seulement nettoyante, on devrait utiliser, et je pense que dans certains services de chirurgie ou de médecine, on utilise le vinaigre blanc, c'est vraiment la meilleure façon de tout nettoyer sans esquinter, parce que ça n'esquinte pas.
Alors, sauf le marbre.
Bah, sauf le calcaire, c'est un acide. Si tu colles de l'acide sur une plaque calcaire ou sur du marbre, ça va le bouffer. Alors, ce qu'elle explique, c'est que ça le teinte. Alors là, ça me fait franchement marrer, parce que le vinaigre blanc...
Ça blanchit.
Ça n'a jamais rien teinté. Non, ça ne blanchit même pas, tu ne le vois pas. C'est totalement incolore. On appelle ça vinaigre blanc, mais en fait, c'est du vinaigre incolore. Ça donc, il n'y a aucun risque à confondre du vinaigre blanc avec le vinaigre.
Et qu'est-ce que vous achetez, vous, comme vinaigre blanc?
Il n'y en a qu'un, hein.
Celui qu'on trouve dans les grandes surfaces en bouteille en plastique. C'est pas celui. Parce qu'il y en a des particuliers aujourd'hui. Vous avez des vinaigres blancs qui sont spécifiques au nettoyage aujourd'hui.
Oui, bah ça c'est du pipeau aussi.
Non, d'accord. Donc le
nettoyage, t'achètes. Vous laissez pas piéger par genre de.
L'autre suffit amplement.
Bah, bien sûr. Mais décidément, tu vois, je ne savais pas, mais j'avoue que.
J'ai jamais vu. Vous avez, vous avez aujourd'hui un vinaigre blanc spécial qui est vendu justement au rayon nettoyage.
Oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est vraiment une bonne.
Et qui est beaucoup plus cher.
Évidemment, mais c'est le même, je vous signale. On vous vend deux fois le prix, un truc qui est identiquement le même. Non, mais c'est pas possible. C'est la malhonnêteté actuellement, c'est la grande mode, c'est le grand sport favori des gens qui vendent.
Bien, alors sur le vinaigre blanc, docteur Delabo.
Oui.
Et là, franchement, j'éclate de rire.
Oui, c'est bien sûr. Il est bien connu que le vinaigre est de l'acide acétique, qui fait partie des acides faibles, comme l'acide citrique. L'un et l'autre, tout faible qu'il soit, très capable d'attaquer les pierres riches en calcaire ou votre estomac si vous en abusez, bien entendu. Et il n'est pas recommandé de boire du vinaigre blanc, ni de le mettre dans les accommodements des plats. C'est vraiment un vinaigre costaud, c'est de l'acide acétique pur.
Vendredi, les maux de ventre soulagés grâce au bon docteur
X. J'ai pas voulu donner de nom.
Non, je sais, c'est pour ça que je ne donne pas de nom.
J'ai pas voulu donner de nom parce que, il n'est pas connu, puis j'ai pas envie de lui faire de la pub. L'interview en elle-même n'est pas extraordinaire, car le bon docteur énumère un tas de poncifs plus ou moins efficaces et connus depuis très longtemps en médecine dite douce ou médecine parallèle, ou les deux à la fois. Vous avez le droit. Mais j'ai éclaté de rire, c'est pour ça que je vous raconte ce petit encart. Quand j'ai constaté que ce brave homme est pourvu d'une bedaine assez spectaculaire, c'est pour ça que j'ai pas mis son nom, je veux pas être méchant. Comment peut-on parler de santé quand on n'en présente manifestement pas les signes? Ça m'a toujours fait marrer. Les obèses nutritionnistes, les gras du bide, coach sportif, les...
C'est ce qu'on appelle incarner le produit qu'on vend.
Les farfelus habillés en clown, philosophes, etc., etc., etc. C'est très marrant.
Bien, alors docteur Delabo, le standard ne fonctionne toujours pas. Donc tout à l'heure, nous vous proposons un sujet sur le cholestérol et un sujet que je vous ai demandé, docteur Delabo, de préparer sur la chirurgie de l'obésité, puisqu'il y a un vrai scandale sur la chirurgie de l'obésité. Je voudrais juste qu'on termine sur le vinaigre, docteur Delabo, si vous voulez bien. Vous nous avez dit qu'on ne devait pas boire le vinaigre blanc. Il y a une grande mode aujourd'hui qui consiste à boire le vinaigre de pomme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Que c'est de l'acide acétique aussi et qu'on se floue de l'acide dans l'estomac. Ça peut être valable chez des gens âgés qui n'ont plus de... Ça peut être valable chez des gens âgés qui n'ont plus de sécrétion gastrique suffisante. Donc on ajoute même du chlore quelquefois. Le chloridia, c'est un médicament réservé aux gens âgés qui n'ont plus d'acidité gastrique.
D'accord. Est-ce qu'il faut le diluer, le vinaigre de pomme, pour ceux qui veulent le boire ?
Très sincèrement, c'est pas malin d'en boire. C'est pas fait pour ça.
Parce qu'on conseille de faire des cures.
Mais c'est stupide. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a un sens que si on en a besoin. Et on en a besoin que si on arrive à avoir ce qu'on appelle une achillie ou achillie, c'est comme vous préférez, A-C-H-Y-L-I-E, c'est-à-dire un manque d'acidité dans l'estomac. Ça existe, ça c'est mon passé de gériatre, que j'utilise encore, certaines gens ne peuvent pas digérer, et je m'aperçois que dans ces cas-là, c'est très bien de leur donner un acide quelconque. Alors ça peut être du jus de citron, il vaut mieux que ce ne soit pas du jus de citron, parce que vous savez qu'il y a énormément de sucre dans le citron, donc on va provoquer un trouble métabolique, on va gêner le métabolisme correct du repas. Mais l'avantage du vinaigre, et il vaut mieux à ce moment-là un vinaigre qui ne contient aucun élément sucré, donc plutôt un vinaigre de vin qu'un vinaigre de pomme. Mais le vinaigre de pomme, c'est de toute façon un vinaigre qui vient d'un alcool de pomme. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne fait pas du vinaigre avec des pommes, on fait du vinaigre avec un jus qui va être bien sûr alcoolisé, puisque le vinaigre, ça provient de l'alcool qui va se transformer, l'énol va se transformer en acide acétique sous l'effet... Alors sous l'effet de quoi ? C'est très amusant.
Et sous l'effet de quoi, docteur Delabo ?
Eh bien sous l'effet tout simplement de ce qu'on appelle une mer.
Ah oui, la mer. C'est ce qui remonte dans le vinaigre d'ailleurs.
Alors c'est quoi la mer ?
C'est l'espèce de peau là qui remonte.
C'est pas la peau qui remonte, c'est tout simplement les petites bestioles qui vont permettre de transformer l'alcool en vinaigre. Elles se nourrissent d'alcool, elles enlèvent donc l'alcool. Donc il n'y a plus d'alcool dans le vinaigre. Ne croyez pas qu'il y ait de l'alcool dedans et que ça l'interdit.
Vous écrivez ça comment, la mer ?
La mer, M-E-R-E, c'est une
mère. M-E-R-E, c'est une mère. C'est une mère, d'accord.
C'est la maman du vinaigre, c'est grâce à elle. Il se crée une peau au fur et à mesure. Ce sont des levures qui viennent se déposer sur... l'alcool, n'importe quel alcool, faire du vinaigre à partir de n'importe quel alcool, pourvu que ce soit de l'alcool.
Bien.
Le vinaigre ne contient plus d'alcool, comme le fromage fermenté ne contient plus de lactose.
Très bien, docteur Delabo, alors, donc dans un instant, nous parlerons du cholestérol et vous pousserez votre cri de bête contre la chirurgie de l'obésité.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Docteur Delabo, nous allons parler de la chirurgie de l'obésité. En 10 ans, le nombre d'opérations a été multiplié par 3. Ça concerne à peu près 450 000 personnes qui ont été opérées en 10 ans. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces opérations, docteur Delabo, étaient inutiles. Alors déjà, vous, quelles sont... Alors on appelle ça la chirurgie bariatrique. Ça veut dire quoi, bariatrique ?
Joli nom, c'est chirurgie, je ne sais pas. J'en sais rien, barias de baria, je ne sais pas quel nom grec, si tu veux, ça doit être chirurgie de l'estomac.
Si on vous touche en l'oreille, normalement la réponse arrive ou pas ? Ah bon ?
Non, ça n'a rien à voir. Je ne me touche pas l'oreille pour savoir si mes pensées viennent, c'est parce que mon oreille me gratte.
Vraiment ?
Mais d'accord. On est à la radio, Philippe, tu pourrais t'occuper d'autre chose.
Non, parce que vous êtes filmé, j'explique aux gens.
Et tout à l'heure, tu t'es occupé de ma braguette.
Vous êtes filmé, donc il faut
vivre un peu.
Il faut expliquer aux gens ce qui se passe.
Ouais.
Bien.
Ah bah, ce qui se passe, c'est pas racontable dans ce studio.
Dans quel cas est-ce que vous conseillez les opérations et les chirurgies dites de l'obésité ?
Jamais.
Il n'y a pas certaines fois, même en cas de ce qu'on appelle les obésités morbides.
Et l'obésité morbide, ça veut dire quoi le mot morbide ? Ça veut dire obésité dangereuse parce qu'elle est devenue très importante. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut l'opérer ? J'ai fait perdre des dizaines et des dizaines de kilos à des gens qui pesaient jusqu'à 160. Le record que j'ai fait mincir, c'est 175 kilos. Bon, c'est vrai que si on arrive à quelqu'un de 240 kilos, ça devient problématique. Mais ce qui est tout à fait anormal, c'est qu'on arrive à des poids pareils et qu'on ne se soit pas occupé des gens bien avant. C'est inadmissible qu'on puisse... En Amérique, oui, d'accord, ils sont complètement fêlés, ça les regarde, c'est leur problème. Mais ici, en France, où nous sommes un pays civilisé, j'aimerais bien quand même qu'on soit un peu raisonnable et qu'on arrête de laisser les gens se goinfrer n'importe comment jusqu'au moment où on va paisiblement les opérer parce que ça rapporte beaucoup de fric, paraît-il. Bon, j'en sais rien. Je sais que j'ai un excellent ami qui a cessé d'en faire et je le remercie pour son intelligence et son honnêteté. Et c'est un très bon chirurgien. Il n'a vraiment pas besoin de se faire du fric avec cette chirurgie de merde. Il est assez capable pour avoir une clientèle énorme parce qu'il est très très capable. Et il est honnête puisqu'il a dit j'arrête. Cette chirurgie on en a fait une manière de gagner du fric, ce qui est vraiment dommage parce que ça détruit complètement tout ce qu'on pourrait penser d'elle. Il n'y a qu'une chirurgie bariatrique qu'à la rigueur je trouverais admissible, c'est la gastrectomie des deux tiers.
Alors, expliquez ce que vous appelez la gastrectomie des deux tiers.
C'est la gastrectomie des deux tiers, ou du tiers, ça dépend. C'est l'opération qu'on pratiquait autrefois quand on ne savait pas soigner les ulcères. Je vous signale à ce sujet-là que j'ai vu un article disant que les inhibiteurs de la pompe à proton pouvaient être dangereux, qu'on arrête de dire des conneries. Il faut savoir qu'il n'y a pas de médicament qui ne soit pas éventuellement dangereux, ou alors c'est pas un médicament. Donc, aucun médicament est dénué d'effets secondaires qui peuvent être dangereux, y compris les inhibiteurs de la pompe à proton, si on en abuse. Mais il est évident que l'inhibiteur de la pompe à proton a permis de cesser définitivement d'opérer un estomac et d'en enlever un bout parce qu'on ne pouvait pas soigner l'ulcère et que ça devenait extrêmement dangereux. Donc, au cours de cette chirurgie que nous pratiquions quand j'étais urgentiste en chirurgie, cette famille, mon fils est urgentiste aussi actuellement, et c'est une chirurgie qui était une chirurgie salvatrice, c'était pour sauver les gens. Et cette chirurgie avait l'inconvénient de faire maigrir les gens terriblement, tiens donc. Parce qu'on n'a pas, on n'a rien inventé avec la chirurgie bariatrique. On le sait très bien que si on enlève un bout d'estomac, on va mincer, on va maigrir, c'est l'idée qui est venue. Mais on a vicieusement transformé cette chirurgie qui est temporaire, parce que figurez-vous que quand vous faites une gastrectomie du tiers ou de la moitié ou des deux tiers, l'estomac repousse. Il est capable de repousser. Et c'est une bonne nouvelle, contrairement à ce que ces crétins de chirurgiens croient en disant « Surtout, il ne faut pas qu'il grossisse votre estomac !»
Ah, qu'est-ce que ça veut dire que l'estomac repousse ?
Ça veut dire qu'on ne change rien. Ça veut dire que le chirurgien, il va couper l'estomac de façon à ce qu'on ne puisse pas le regrossir parce qu'il ne sait pas comment les gens vont manger après. Et si en même temps, on leur apprenait à manger au lieu de déconner ? Parce que c'est ça le problème. Si vous apprenez à quelqu'un qui a été obèse comment manger avec appétit, avec plaisir et perdre jusqu'à 102 kilos, ce qui est mon record absolu, 60 ans, 75 kilos, 73 kilos, on n'est pas descendu plus bas, elle était encore dodue, mais elle était très contente et elle n'a pas eu besoin d'opération, ce qui est assez, alors ça j'en revenais pas. Elle n'a pas eu besoin d'opération
Donc ce qui veut dire qu'un estomac est intelligent, il est malin,
oui.
C'est que si vous le réduisez, au bout d'un certain temps, il finit par retrouver sa forme initiale.
Il va finir par retrouver sa forme initiale suivant la quantité d'aliments que vous allez mettre dedans.
C'est donc, ça veut dire que quelqu'un qui se ferait opérer et qui suivrait un régime après, oui. Verrait son estomac rester tout rikiki.
Oui, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est complètement idiot parce que c'est une manière de... Vous raccourcissez la vie des gens de 10 à 20 ans. Attendez, on va voir comment ils vont être tous les opérés, toutes les sleeves. Et c'est pas le pire, la sleeve. Le pire, c'est le bypass. Alors ça, c'est la catastrophe. Quant à l'anneau, alors ça, c'est pas non plus une bonne idée parce que... Alors, il faut que vous sachiez quand même qu'il y a eu énormément de casses. C'est comme ça que les chirurgiens appellent les morts. Il y a énormément de gens qui ont passé l'arme à gauche parce qu'ils avaient été opérés, parce que leur anneau avait glissé, parce que leur chirurgie bariatrique avait échoué, parce qu'il y avait eu des fuites, parce que si, parce que ça. Enfin bref, c'est une chirurgie dangereuse. Il faut bien le savoir quand même. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. La chirurgie, à la rigueur, la sleeve, c'est pas très dangereux, mais c'est une punition.
Alors la sleeve, qu'est-ce qu'on appelle la sleeve ?
La sleeve, on réduit l'estomac comme on le fait dans la gastrectomie du tiers ou des deux tiers, mais on le coupe en deux au milieu, c'est-à-dire qu'on enlève complètement la poche gastrique, on remplace l'estomac quasiment par un tuyau, pratiquement par un tuyau. Je vous raconte pas le plaisir et le bonheur que vous pouvez avoir à manger avec une sleeve, c'est délicieux. Maintenant, rassurez-vous, avec une sleeve, c'est pas agréable. Avec un bypass, alors là, c'est franchement la punition à vie.
Alors, le bypass, c'est...
Le bypass, on met l'estomac hors circuit. On joint l'œsophage avec l'intestin, et puis, pour que quand même il y ait du sucre gastrique, parce que sinon, on ne digérerait rien du tout, là, c'est la mort annoncée, eh bien, l'estomac reste valide. Comme il y a un réflexe de sécrétion visuelle et olfactif et de sensation de l'être humain, heureusement, l'estomac va quand même sécréter des sucs gastriques qui vont dégringoler directement dans la partie qu'on a aménagée. Alors, imaginez, si vous voulez, l'intestin, l'estomac, et puis derrière l'œsophage, l'estomac est derrière l'intestin. On rejoint l'œsophage à l'intestin, au duodénum, et on bloque en haut, on ferme en haut, mais on le laisse attaché, et en bas, on le laisse rejoindre le duodénum pour aller sécréter ses produits.
Alors, docteur Delabo, de toutes les techniques dont vous nous parlez, quelles sont celles qui sont réversibles et celles qui ne sont pas ?
La sleeve, c'est la seule qui peut être réversible éventuellement. Ça ne sera jamais aussi bien qu'avant, mais ça ne sera pas catastrophique. La seule chirurgie de l'estomac qui peut être absolument réversible, et on en a la preuve sur les radios qu'on faisait à l'époque, maintenant... La technique a évolué, je vous parle d'il y a 50 ans. Oui, 50 ans à peu près, presque 50 ans. Eh bien, on voyait l'estomac qui redevenait absolument normal. Vous aviez un estomac avec un ulcère. Bon, il y avait l'ulcère, mais il y avait un estomac normal. Vous avez l'estomac dont on avait enlevé une grosse partie au niveau de l'ulcère, bien entendu, où que soit placé l'ulcère. Et vous avez ensuite un estomac qui redevient quasiment comme le
premier. Donc, la sleeve est une technique réversible.
Elle peut être réversible si le chirurgien ne s'échine pas à vous dire qu'il ne faut plus que vous mangiez. Parce que là, c'est irréversible. Et vous êtes condamné à vie à grignoter comme un oiseau, ou comme une souris, ou comme un canard, ou comme un... Bref.
Et si les gens remangent normalement ?
Alors, certains remangent normalement.
Parce qu'on en connaît, on a des exemples.
Oui, mais malheureusement, non, c'est pas certains gens remangent normalement. C'est pas ça qu'il faut dire. Parce que manger normalement, c'est manger chrono. Si certains gens recommencent à manger comme
avant, voilà.
Ce qui n'est pas du tout normal, puisqu'ils sont devenus obèses en mangeant comme ça, ils redeviennent obèses. J'ai un exemple dans une famille, je ne dirai pas de nom et tout, ce sont des gens que je connais très très bien. La maman a fait un bypass, elle est extrêmement courageuse, elle a décidé que doit faire 5 ou 6 ans, même plusieurs années en tout cas, qu'elle a fait son bypass, ça fait même plus que ça. Et elle n'a absolument jamais regrossi. Bon, sa fille qui est très jeune, à 20 ans, était devenue obèse et elle s'est laissée grossir pour qu'on lui fasse un bypass. Là, il faut le faire quand même. Et ce n'est pas un cas isolé, hein, ne croyez pas ça. Et sa fille...
Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des gens à qui on dit qu'ils ne sont pas assez gros pour leur proposer l'opération.
Oui.
Donc, dans ces cas-là, ils vont se laisser grossir pour avoir droit à l'opération qui va donner des résultats qu'ils ont vus sur d'autres personnes.
C'est exactement ce qu'a fait sa fille.
Voilà, qu'ils trouvent tout à fait probant.
L'ennui, c'est que sa fille est en train de regrossir. D'une part, et que d'autre part, elle bouffe n'importe quoi, et qu'elle est encore jeune, elle doit avoir 25 ans, je crois. Elle est encore très jeune, mais je pense que son avenir est hautement compromis et qu'elle ne fera sûrement pas une centenaire, pour la bonne et simple raison qu'elle grignote et qu'elle recommence à grignoter les mêmes aliments qu'elle mangeait en très grosse quantité. Mais elle grignote de plus en plus, donc progressivement son estomac, son duodénum, son machin va s'élargir, elle va finir par se créer un faux estomac, un deuxième estomac, Et elle va donc aboutir au même problème qu'elle avait avant, puisqu'elle est en train de reprendre pas mal de kilos. Il est donc évident que même le... Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais c'est très simple, en fait. D'abord, avant toute chirurgie bariatrique, commencez par faire un test de chrononutrition, c'est-à-dire proposer aux gens une alimentation saine, vous la connaissez tous, vous savez qu'on mange bien quand on mange chrono, leur dire, écoutez, on ne va pas essayer de vous faire maigrir, on va vous préparer à l'opération. J'ai fait le coup deux fois, et il y a une des deux fois où ça a parfaitement marché. La petite nana m'a perdu 10 kilos en l'espace de deux mois, et elle a dit, bon, j'ai compris, docteur, ce que vous vouliez me dire, je ne vais pas me faire opérer. J'ai dit, exactement, ma chérie. Merci d'avoir fait ce que je vous ai conseillé. Parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'on n'a pas besoin d'aller se faire trancher la viande et de se compromettre complètement son avenir. Mais on fait donc un test chrono qui peut être utile pour persuader les gens qu'en fait, ils n'ont pas besoin de le faire. Mais ce qu'on peut faire aussi si l'opération a eu lieu, et c'est ce que je fais pour des gens, c'est les faire remanger chrono. Alors, on met toujours un régime starter. Parce que le régime starter, c'est le minimum du minimum qui empêche d'avoir des manques et empêche d'avoir des carences importantes. Mais il permet de remanger correctement petit à petit. Et si on a fait une sleeve, c'est merveilleux parce que là, on va pouvoir résoudre le problème progressivement. L'idéal serait non pas de faire une sleeve, mais une gastrectomie partielle. En respectant l'estomac, parce que même quand on respecte l'estomac, il a rétréci forcément, il est moins efficace. Donc, on va avoir moins faim, on va pas pouvoir manger autant. Et là, c'est vraiment très, très efficace. Parce que si on met la chrono là-dedans, et comme la chrono est très agréable, c'est pas difficile. Vous êtes à peu près, enfin, ceux d'entre vous qui sont venus me voir, sachez que depuis que j'ai commencé la chrono, vous êtes un nombre assez affolant. Vous êtes plus de 400 000 à être venus me consulter. Ce qui fait quand même pas mal de monde. Bon, ça a été en 30 ans, hein, je vous rassure, mais il n'empêche que vous êtes plus de 400 000. Et sur les 400 000, j'ai eu deux cas. Alors, deux cas sur 400 000 où les gens ne peuvent pas admettre, disent « je ne peux pas faire ça, je ne veux pas tali. » Attention, dans les deux cas, ce sont deux cas rédhibitoires, c'est-à-dire ceux qui ne cèdent jamais. Parce que même ceux qui ne cèdent pas reviennent tôt ou tard pour me dire « finalement, peut-être que... »
Alors, docteur Delabo, les gens qui nous écoutent ce matin, parce que c'est vrai que cette chirurgie bariatrique offre parfois un certain nombre d'espoirs à des gens qui sont en très fort surpoids et qui, effectivement, quand on les voit, qui maigrissent vraiment. Et ils disent, mais finalement, quelle est l'alternative pour nous si vous nous enlevez tout cet espoir ?
Alors, je vais te dire, hier, je vous enlève pas tout cet espoir, je vous donne un espoir 10 fois meilleur. Si vous avez une obésité qu'on appelle morbide, rien ne vous empêche de mincir si vous m'écoutez. C'est simple. Mais là où c'est amusant, parce que j'ai vraiment... je préparais l'émission, j'y pensais, parce que c'est important, parce que c'est un sujet qui me préoccupe. D'un point de vue de santé publique, je trouve ça absolument idiot. Eh bien, cette dame est venue me voir parce que elle pèse dans les 120 kilos. Son médecin lui a dit, écoutez, on a essayé tout un tas de régimes, ça marche pas. On va vous faire, faut faire une chirurgie bariatrique. Et elle lui a dit, mais j'ai entendu parler d'un médecin qui fait... Et le gars lui a dit, non, mais c'est parfaitement inefficace, allez pas le voir, on fait de la chirurgie, point. Alors, elle est venue me voir, bien entendu, parce que quand vous dites ça à une femme, elle fait l'inverse, c'est bien connu, ce qui m'a bien fait rire intérieurement. Et elle m'a dit, écoutez, moi, quand on m'a dit qu'on allait me trancher le ventre parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, j'ai une amie qui m'a dit, mais attendez, il y en a une autre solution, t'as bien vu que j'ai perdu 20 kilos. Elle me dit, t'as beau en avoir 50 à perdre, essaie de voir mon toubib, essaie de voir le docteur Delabo, tu verras bien. Elle est donc venue me voir en me disant, vous êtes ma seule alternative. On m'a dit qu'on ne pouvait plus rien pour moi. Je lui dis, c'est complètement idiot, bien sûr qu'on peut quelque chose de tout, c'est que là-dedans, vous décidiez que vous allez faire ce que je vous dis.
Là-dedans, c'est dans la tête.
Ben oui, là-dedans, je vais indiquer mon cerveau. Oui, pardon, on n'est pas à la télé. Mais en fait, si tu veux, c'est ça qui est important et qui est intéressant. Si les gens comprennent qu'ils peuvent y arriver, c'est sauvé. Alors, j'ai à ma disposition toute une équipe de gens pour aider à accepter, pour aider à comprendre, pour aider. J'ai un spécialiste en programmation neurolinguistique, Loïc, qui est un type adorable, qui vient de l'Eure-et-Loir, que j'ai débauché. J'ai Walid, qui est un gentil berbère, qui est en train de mettre en place son site et sa consultation d'hypnothérapie profonde, donc une hypnothérapie efficace. Et puis, depuis des années, j'ai deux nanas qui, toutes les deux, font de la réflexologie plantaire, laquelle est très efficace aussi pour résoudre les problèmes d'anxiété.
Bien, docteur Delabou, dans un instant, nous allons voir quels sont les aliments qui sont très utiles et qui fonctionnent en cas de cholestérol.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Vous êtes très triste aujourd'hui parce que vous ne pourrez pas poser vos questions au docteur Delabou et moi je vais devoir le supporter jusqu'au bout.
Non, donc c'est moi qui le supporte parce qu'il n'arrête pas de m'enquiquiner. Il me dit un poil deux. Je lui dis oui, ça fait combien? Un poil deux.
Non, ça dépend de la longueur du poil.
As-tu fait de l'arithmétique une fois dans ta vie?
Non, expliquez-moi.
Non, ça c'est très journalistique. On ne va surtout pas dire un nombre exact. On va faire, on va
non,
rester
un
dans
poil.
Le flou. On va entretenir.
Non, un poil c'est pas long
l'incertitude.
Par contre.
Ça dépend.
Bon, docteur Delabou, oui. Je voulais que vous nous parliez du cholestérol.
Non, pas des poils.
Et des aliments. Alors, vous, c'est vrai que vous avez écrit un livre sur le cholestérol. Vous avez été le premier à dire que finalement, contrairement à tout ce qu'on disait, il ne fallait pas supprimer le fromage et le gras quand on avait du cholestérol.
Oui. Hein? Tout à fait. Et justement, c'est ça qui est intéressant parce que cholestérol et aliments, 8 choses à ne plus croire.
Et donc là, aujourd'hui, vous nous listez. Suite à la lecture d'un article qui vous a interpellé, ces fameuses choses qu'on ne doit plus croire.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de vrai dans les affirmations, mais la démonstration qui suit est complètement débile. Ça ne rime à rien. Mmh. C'est-à-dire qu'on part, c'est assez amusant.
D'un postulat qui est bon.
D'un postulat qui est bon, mais pour expliquer ce postulat, on donne des raisons qui sont mauvaises. Tout simplement pour une raison précise, c'est que la médecine actuelle refuse de prendre en compte à 100% la chronobiologie. Il n'y a rien à faire, ça, ils sont têtus comme des mules. Alors, quels sont les médecins qui suivent la chronobiologie, peut-être sans le savoir d'ailleurs, comme M. Jourdain fait de la prose, qui? Eh bien, les cancérologues. Les cancérologues savent qu'il faut donner le médicament chimique hyper dangereux au corps au moment où il va tuer la cellule cancéreuse sans tuer les cellules humaines. C'est quand même vachement important.
C'est-à-dire quel moment?
Ça dépend. Ça dépend du produit, ça dépend de la nature du cancer,
ouais.
Ça dépend du produit. Parce que, suivant la nature du cancer, si c'est un cancer qui a copié un organe, cet organe, la différence entre le cancer et cet organe, est que le cancer ne se dort jamais, il est 24 heures sur 24 en activité, c'est pour ça qu'il grandit, c'est pour ça qu'il bouffe le corps, parce qu'il n'arrête pas, il est en croissance permanente, et l'organe, lui, va dormir. Mais les organes ne dorment pas tous au même moment. Ah oui, les organes, certains organes dorment la nuit, d'autres dorment le jour. Certains organes travaillent la nuit énormément et d'autres ne travaillent que le jour.
Mmh. Un exemple,
ouais. Le foie va travailler la nuit, va travailler la nuit pour détoxiquer le corps. Il va travailler aussi dans la journée. Donc le cancer du foie, c'est embêtant. Bon, l'avantage, c'est qu'un cancer du foie, ça s'opère très bien et que c'est un des rares cancers qui guérit relativement facilement. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Et il faut savoir que certains cancers peuvent très bien être guéris par la chirurgie. Je ne croyais pas que je sois contre la chirurgie et les chirurgiens, bien au contraire. Je suis contre une méthode que je trouve insane, c'est-à-dire malhonnête, c'est-à-dire enlever un estomac alors qu'on peut faire autrement. Sinon, la chirurgie est excellente. On opère très facilement la thyroïde et il faut savoir qu'un cancer de la thyroïde, ça guérit à 100%.
Bien, revenons au cholestérol, docteur Delabou, oui, et ces 8 choses à ne plus croire.
Les œufs sont à éviter en cas d'hypercholestérolémie. Faux, nous dit l'article, mais malheureusement, les raisons avancées ne sont pas valables, car dans le cas d'une hypercholestérolémie génétique, c'est malheureusement parfaitement vrai. Je ne peux pas manger des œufs. J'ai testé, mon cholestérol grimpe le lendemain à plus de 3 grammes, voire même 4 grammes, et contrairement aux autres, lui, il ne redescend pas, le mien. Donc,
mais s'il n'y a pas d'hypercholestérolémie, on peut donc manger des œufs.
Ben évidemment.
D'accord.
Attendez, il signale bien encore d'hypercholestérolémie. Et dans certaines hypercholestérolémies, on peut manger des œufs à condition que ce soit le matin. Mais manger des œufs le soir, c'est de toute façon une mauvaise idée. Ce n'est pas le moment, de toute manière, de manger des gras. Alors, le gras des œufs, c'est vrai, associe différentes sortes de gras, dont certains sont des gras insaturés, donc faciles à assimiler. L'ennui, c'est que quand vous prenez des gras insaturés le matin, vous faussez le mécanisme de fabrication des cholestérol. Donc, vous flanquez la machine par terre. Ce n'est pas le moment d'aller prendre des oméga-3. Si vous prenez des gélules d'oméga-3, ne les prenez jamais le matin, mais le soir. 2. Manger sans gras fait baisser le cholestérol. Faux, nous dit l'article. C'est exact. Mais malheureusement, les raisons avancées sont tout aussi fausses, puisqu'on vous dit qu'on peut manger n'importe quel cholestérol à n'importe quelle heure de la journée, et ça, il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Les gras saturés, c'est le matin. Les gras monoinsaturés, c'est le midi. Les gras polyinsaturés, c'est le soir. Attention, ça ne veut pas dire que c'est que du gras saturé le matin, que du gras monoinsaturé le midi, que du gras polyinsaturé le soir, mais que c'est une dominante de gras polyinsaturé le soir, une dominante de gras monoinsaturé le midi et une dominante de gras saturé le matin. Il ne faut plus manger de fromage quand on a du cholestérol. Faux, nous dit encore l'article, et là, c'est également tout à fait vrai, sauf que si on suit les conseils donnés pour le manger, on va faire monter le cholestérol, car la façon de manger dont il faudrait, soi-disant, faire, est totalement fausse. On ne doit manger du fromage que le matin, même si on n'a pas de cholestérol, parce que le matin, il va y avoir un effet extrêmement important, le cholestérol, le gras saturé que vous mangez le matin empêche le corps de fabriquer de HMG coenzyme réductase. On va y revenir plus loin, je vous expliquerai. 4. Il faut bannir la viande rouge si on a du cholestérol. Faux, affirme l'article, ce qui est vrai, mais surtout pas en donnant les conseils donnés ensuite, qui dit qu'on peut manger de la viande rouge le soir, qu'il faut pas manger de l'entrecôte parce que c'est trop gras, j'ai une hypercholestérolémie génétique, j'adore bouffer de l'entrecôte, ça a jamais fait monter mon cholestérol. À condition de la manger le midi et à condition de ne pas terminer par un dessert sucré, le yaourt étant un dessert sucré, ne vous en déplaise. 5. Le cholestérol vient de l'alimentation. Faux, affirme l'article. Nouvelle fois, hélas, malheureusement, c'est vrai. Et manifestement, l'auteur ne connaît pas l'importance capitale de la HMG coenzyme réductase. Le cholestérol ne vient pas de l'alimentation normalement entièrement. Il ne vient pas de ce qu'on appelle... Il y a deux... Je m'explique, parce que là, je vais me mélanger. C'est très simple. Vous avez ce qu'on appelle le cholestérol exogène, celui qui vient de l'alimentation. Le cholestérol endogène...
Qui vient de nous.
Celui qui est fabriqué par notre organisme. On fabrique actuellement en endogène une immense quantité de cholestérol. Pourquoi ? Parce qu'on n'en mange pas suffisamment d'exogène au moment où il le faut. Le cholestérol exogène doit être saturé et doit être pris le matin ou dans l'heure du lever, parce que si vous levez la nuit, c'est exactement pareil, puisque Dieu merci, votre métabolisme va suivre votre activité, votre repos, ce qui veut dire que le cycle circadien, c'est bien gentil, mais c'est pas la panacée universelle. Je reviens aussi là-dessus sur un de mes vieux poncifs.
Laissez-moi tranquille.
Donc, vous allez avoir un cholestérol saturé qui va bloquer cette HMG coenzyme réductase, qui va l'empêcher de fabriquer trop de cholestérol endogène, ce qui va permettre au corps de beaucoup moins se fatiguer, parce que plus on lui demande d'aller fabriquer des trucs, plus vous le fatiguez, plus vous demandez un effort, plus vous demandez la synthèse, ça nécessite énormément de mise en jeu, d'efforts. Pourquoi vous croyez que vous avez un gros creux, enfin, au milieu de matinée, quand vous avez mangé le matin un yaourt, des fraises, une banane et un petit peu de fromage, parce qu'il ne faut pas en manger trop? Eh bien, vous allez provoquer exactement ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire que vous allez avoir une hypoglycémie carabinée. Et vous allez fatiguer votre organisme. 6. Manger des aliments anti-cholestérol fait baisser le taux de celui-ci. Partiellement faux, répond l'article. C'est une réponse totalement fausse, car en fait, tout dépend à quel moment on va consommer ces différents cholestérol, sachant qu'il n'existe pas d'aliments anti-cholestérol. Ça, c'est aussi une sottise.
Donc ça, c'est une invention du marketing.
Exactement, c'est fait pour vendre des produits. Il n'y a pas d'aliments anti-cholestérol. Quand vous voyez sur une pub d'un beurre, soi-disant beurre, parce qu'en fait, c'est une margarine bien connue, qui vous dit oméga-3, 10% de... Alors, c'est vrai, mais c'est du pipeau. Pourquoi c'est vrai du pipeau? C'est que si vous avez 3 grammes de cholestérol et que vous le diminuez de 10%, il vous en reste de 70. Donc, de toute façon, il y en a encore beaucoup trop.
7e.
Il faut donc simplement utiliser intelligemment tous les gras contenus dans les aliments en les mangeant au bon moment de la journée. 7e, il y a des aliments dangereux quand on a du cholestérol. Faux, répond l'article. Alors là, je me fâche devant cette réponse inepte, car c'est malheureusement parfaitement vrai. Si vous avez du cholestérol, n'allez pas vous imaginer que vous pouvez manger du chocolat ou des cacahuètes. Je peux vous garantir que vous allez le payer très cher sur le plan santé, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez les bouffer. Et j'ai énuméré chocolat et cacahuètes, mais il y a d'autres aliments qui peuvent être extrêmement dangereux, même si vous n'avez pas de cholestérol. Et il faut bien comprendre qu'une affirmation pareille peut être extrêmement dangereuse pour les gens souffrant d'hypercholestérolémie, ne s'imaginant alors qu'ils peuvent en fait manger ce qu'ils veulent et qui mettent ainsi leur santé en danger. Alors, on arrête de dire des bêtises, s'il vous plaît, qui mettent la vie des gens en danger. 8, et c'est pour finir. Le cholestérol est dangereux pour la santé. L'adage populaire dit « à question idiote, réponse idiote ». Et c'est vraiment le cas en l'occurrence, tout simplement parce que ça n'est pas le cholestérol qui est dangereux par la santé. Celui-ci est absolument indispensable à l'équilibre de la chronobiologie humaine, mais tout simplement le déséquilibre de celui-ci avec une augmentation des cholestérols LDL, dont la trop forte augmentation dans la circulation sanguine est génératrice d'accidents cardiovasculaires, cérébraux, dangereux et potentiellement mortels les uns et les autres. Donc, n'ayez pas peur de manger gras, mais ne mangez pas du gras n'importe quand, n'importe comment et dans n'importe quelle quantité. En résumé, 8 affirmations qui sont dans l'ensemble à chapelet de sottises. Je suis désolé, je ne suis pas gentil, mais je déteste qu'on dise des bêtises quand il concerne la médecine. Prouvant que manifestement les auteurs, dont je n'ai pas donné le nom parce que je ne veux pas leur faire de peine, donnent de mauvaises raisons, même quand leurs affirmations sont au départ vraies. Conclusion, quand il ne connaît rien en chronobiologie humaine, on ferait mieux de venir suivre mes cours sur le métabolisme du cholestérol ou de lire mes bouquins. Merci Philippe d'en avoir parlé tout à l'heure. Il y a un livre sur le cholestérol, il est fait pour ça.
C'est normal, je touche à chaque fois que je cite un de vos livres. Je touche, il faut le dire.
Au lieu de dire des âneries, avec malheureusement la plus parfaite bonne foi et le sentiment d'énoncer des vérités premières, j'ai oublié de te verser ta petite com' de la dernière fois. Mais
c'est un vieux livre qui t'entra... Non, c'est un vieux livre que j'ai sous mon matelas, en fait, il fait l'équilibre.
Celui non, sur le cholestérol. C'est pas sous le matelas. Sous le matelas, tu vas avoir des bosses dans le dos. Oui. C'est sous le pied qui
c'est
est cassé.
C'est sous le pied, voilà, c'est ça. C'est là où je l'ai mis.
Cassé. Oui, j'ai connu un type qui disait qu'il avait beaucoup de livres chez lui pour équilibrer les meubles.
C'est ce qu'on appelle les pales.
Des pales.
Oui, les piles à lire. C'est que les gens chez eux ont des piles de livres à lire.
Oui.
Voilà. Des pales. On appelle ça des pales.
C'est très amusant. Mon père avait ça sur sa table de chevet.
Voilà. C'était ça. En fait, et les gens, ils les mesurent.
Ils lisaient la nuit.
Philippe, voilà. T'as combien de pales chez toi ?
Non, j'ai pas de pales. Tout ce qui arrive, je le lis.
Non, moi j'ai des pales, malheureusement, j'ai pas le temps.
Hein, mais il y a beaucoup de gens. Donc ça s'appelle une pale.
Ouais, j'ai une pale.
Une pile à lire. Voilà, docteur Delabeau. Donc, mais par contre, les livres du docteur Delabeau sont faits pour être lus.
Ah oui, pourquoi ?
Et coloriés aussi.
Non, j'ai pas encore fait de bouquin à colorier, ça viendra peut-être. Remarque avec mon nouvel éditeur, il sait pas quoi inventer. Le nouveau bouquin qui sort, c'est la suite de celui qui est sorti l'année dernière. J'en parle, alors je vous
c'est la nouvelle chrononutrition au sport d'hiver.
Mais non, c'est la suite, c'est tout simplement la façon de suivre le premier, c'est un mode d'emploi, c'est un carnet de bord. Et il sort au prochain Salon du Livre. Si vous venez me voir, je vous en signerai un exemplaire.
Docteur Delabeau, on vous retrouve la semaine prochaine en espérant que le standard refonctionne. Et puis, en attendant, vous pouvez voir les vidéos du docteur Delabeau sur la chaîne YouTube de Beurre FM et écouter les podcasts. Vous voulez dire quelque chose ?
Écouter les podcasts, bien sûr. Et puis, voir des podcasts de ma web TV sur Facebook. Et je suis désolé de ne pas avoir eu les questions. Finalement, ça me manque.
Ah, voyez ?
Oui.
Que ça vous manque de parler aux gens.
Oui, ça me manque. J'aime bien. J'aime bien le contact, de toute façon.
Bon, à mercredi, docteur Delabeau. On vous a assez entendu pour aujourd'hui.
Et je serai ravi de vous entendre et de vous répondre la semaine prochaine.